Salutations, amis et frères. Je suis le docteur Bob Thiel de l'Église de Dieu Continuante. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la prédestination, de l'élection et de la sélection. Certains se sont demandé si eux-mêmes, ou d'autres, étaient prédestinés à se perdre. La réponse est non. Aviez-vous été prédestiné à être appelé? Peut-être. Cela signifie-t-il que votre destin final était déjà décidé pour vous? Non. En réalité, trop de gens ignorent ce qu'est la prédestination. Tout d'abord, je voudrais préciser ce qu'elle n'est pas. La Bible n'enseigne nulle part que la décision que vous devez prendre, votre destin final être sauvé ou perdu, est prédéterminée. Ni que vous êtes destiné à ce destin, quoi qu'il arrive. La prédestination n'implique pas d'être prédestiné à la perdition. Pause 02. Mais la Bible ne parle-t-elle pas de prédestination? Certes, mais elle ne dit pas ce que beaucoup de gens pensent, notamment dans le monde protestant. Beaucoup croient qu'on est prédestiné à être sauvé ou perdu, que certains sont destinés au salut et d'autres à la perdition. Nous allons donc examiner quelques passages des Écritures concernant la prédestination, et je tenterai de les expliquer. Nous commencerons par l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1. Si vous avez une Bible, vous pouvez suivre ma lecture. Je lirai principalement la version Second 21. Non pas qu'elle soit parfaite, mais parce que son français est plus proche de celui du 21e siècle. À partir du verset 4, l'apôtre Paul écrit « En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être adoptés comme ses enfants par Jésus-Christ, selon le dessein bienveillant de sa volonté. » Nous constatons donc que certains sont prédestinés à être appelés à cette époque, mais cela ne signifie pas que la majeure partie de l'humanité est prédestinée à être perdue. Si vous êtes dans l'Épître aux Éphésiens, rendez-vous au verset 11 du chapitre 1. On y lit « En lui aussi nous avons été choisis, ayant été prédestinés selon le dessein de celui qui opère toutes choses conformément au conseil de sa volonté, afin que nous qui avons d'abord espéré en Christ, nous soyons à la louange de sa gloire. » Les chrétiens ont été prédestinés à être appelés, mais il nous appartient de choisir d'être fidèles ou non. Vous avez le choix, celui de faire partie des élus ou celui de ne pas en faire partie. Je souhaite maintenant aborder le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, à partir du verset 28. Ceux qui sont prédestinés ne sont pas destinés à la perdition, mais à la louange de sa gloire, comme nous venons de le lire. Au verset 28 du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul écrit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci, c'est-à-dire Jésus, soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Pause 01. Encore une fois, la prédestination concerne le fait d'être prédestiné à être enfant de Dieu à notre époque. Aucun passage de la Bible mentionnant la prédestination n'évoque la prédestination à la perdition ou au rejet du Christ. Personne n'est prédestiné à faire un choix précis, à accepter ou à rejeter le Christ, à être sauvé ou perdu. Mais certains sont prédestinés à être appelés au salut dès maintenant. Si vous avez été prédestiné, eux, votre choix ou votre élection vient de Dieu. Je vais lire Jude 1, verset 1. Ce passage est tiré de la Bible, dans sa traduction anglaise de base. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, aux élus de Dieu, sanctifiés par Dieu le Père et gardés en lieu sûr pour Jésus-Christ. Je vais maintenant aborder 1 Thessaloniciens 1, en commençant par le verset 1, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Et jusqu'au verset 4, « Sachant, frères bien-aimés, que vous avez été élus par Dieu. » Donc, si vous avez été appelés, vous avez été élus par Dieu. Passons maintenant à 1 Pierre 1. On y retrouve une idée similaire, bien que la formulation soit complètement différente. 1 Pierre 1, à partir du verset 1, « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Ainsi, dans diverses parties du Nouveau Testament, nous lisons au sujet de l'élection, de la sélection et de l'appel. Je vais maintenant aborder l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Les enfants bien-aimés de Dieu sont appelés à une obéissance totale et à être gardés en sécurité pour Jésus. Paul écrit dans Éphésiens 2:8 : « car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ne vous méprenez pas. La grâce de Dieu est gratuite et imméritée. Mais si nous refusons de changer de vie et d'obéir à Dieu, il n'est pas tenu de nous accorder sa grâce. Remarquez que ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance et que nous sommes appelés à accomplir. Nous sommes prédestinés à accomplir l'œuvre que Dieu souhaite que nous fassions, notamment en développant notre caractère. L'Esprit de Dieu nous donne la force d'y parvenir, mais cela nous incombe. Nous sommes également appelés à soutenir l'œuvre de Dieu, en particulier si nous sommes ou aspirons à être des chrétiens de Philadelphie. Pause 01. Je vais maintenant lire 1 Corinthiens 15h10. L'apôtre Paul écrit : Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. La grâce de Dieu envers vous n'est pas vaine non plus. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Voilà ce que nous devrions tous faire. Dieu ne permettra pas que le sacrifice du Christ et sa grâce soient pris à la légère. L'apôtre Paul ne les a pas pris à la légère. Pause 02. C'est en partie pour cette raison que Luc 12h32 montre que le nombre des fidèles, jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu, sera restreint. Jésus dit en Luc 12h32 « N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Mais nous lisons en Matthieu 7:13-14 que seuls quelques-uns le trouveront. Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. » Il s'agit du même Jésus venu sauver bien plus qu'un petit nombre, selon Luc 13:29-30. Paul montre que si Dieu n'a pas rejeté son peuple pour toujours, il n'appelle qu'un reste à présent. On trouve cela dans l'Épître aux Romains, chapitre 11. Je vais lire les versets 1 et 5. Paul écrit : Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Certainement pas. Et le verset 5. De même, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ce reste était prédestiné. Pause 02. Je vais maintenant me référer à l'Ancien Testament, Zacharie 10, verset 6. Oui, nous citons beaucoup les Écritures. Je crois même que c'est plus fréquent que dans la plupart des églises. Bref, Zacharie 10h6, je fortifierai la maison de Juda, et je sauverai la maison de Joseph. Je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux. Ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Or, comment des gens peuvent-ils être comme s'ils n'avaient pas été rejetés s'ils n'auront jamais la possibilité d'être sauvés ? Pause 01. Je vais me référer à Luc 3, verset 6. Il s'agit de la même traduction que celle de la Bible d'Ouérin catholique romaine. Luc 3h6. Toute chair verra le salut de Dieu. Certains interprètent cela comme signifiant que toute chair verra Jésus. Or, cela ne leur en donne pas vraiment l'occasion. Dans l'Ancien Testament, en Isaïe 52, 10, il est dit « Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. » Pause 01. Cependant, tous n'ont pas cette opportunité en cette époque, qui est l'ère de l'Église. Il est écrit dans Romains 2h11 « Car Dieu ne fait point exception de personne. » Éphésiens 6h9 « Il ne fait point exception de personne. » Et dans Actes 10h34, citant l'apôtre Pierre « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Si tel est le cas, il doit y avoir un plan pour les autres. Ceux qui n'ont pas été prédestinés à être appelés en ce temps-ci. Y a-t-il un plan pour ceux qui ne sont ni appelés ni choisis maintenant ? Dieu ne fait point exception de personne. Il n'aime pas plus ceux qu'il a prédestinés à être appelés en ce temps-ci que ceux qu'il appellera plus tard. Il ne les aime pas moins non plus. La raison pour laquelle certains ne sont ni appelés ni choisis en ce temps-ci est de réduire le risque qu'ils blasphèment contre le Saint-Esprit et commettent ce qu'on appelle le péché impardonnable. On peut lire à ce sujet dans Marc 3h29. Pourtant, ils auront leur chance dans ce que Jésus a appelé le siècle à venir. Pause 01. Les prémices sont ceux qui sont appelés maintenant. Nous faisons partie d'une première pluie, mais selon Osée 6h3, une pluie de seconde saison viendra. Le prophète Osée fut inspiré d'écrire « Connaissons, recherchons la connaissance du Seigneur. Son apparition est aussi certaine que l'aurore. Il viendra à nous comme la pluie de première et de dernière saison sur la terre. Pause 01. Or, selon le Nouveau Testament, dans Jacques 5:7, ce temps viendra dans le futur, car il représente une moisson, et non pas seulement la pluie. Jacques 5:7 dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voyez comment le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, en l'attendant patiemment jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et de la dernière saison. Ceux qui ne sont pas appelés maintenant le seront plus tard. On a négligé beaucoup de ces passages des Écritures. On ne les a pas mis en perspective de cette manière, et on ne les a pas compris. Pourtant, l'Église primitive comprenait le plan de salut de Dieu bien mieux que la majorité de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui. Or, le simple fait des pertes en temps de guerre, la mort d'enfants et les décès accidentels causent une immense souffrance et un chagrin totalement inutile si nous comprenions le plan de Dieu. Mais comme beaucoup ne le comprennent pas, nombreux sont ceux qui sont devenus athées et qui se demandent « Si Dieu permet cela, et que ces gens vont souffrir pour l'éternité, quel genre de Dieu est-ce là ?» C'est parce qu'ils n'ont pas appris à connaître le vrai Dieu. Pause 02. Nombreux sont ceux qui ont souffert, persuadés que leurs proches étaient morts à jamais perdus. La vérité est que leurs parents ou êtres chers n'étaient probablement pas perdus du tout. Mais toute cette perplexité et cette inquiétude proviennent d'une autre idée reçue, l'une des plus grandes erreurs de notre époque. Presque universellement acceptée, sans même se poser la question. Il s'agit de l'idée qu'il n'existe que deux catégories, les vivants et les morts, les sauvés et les perdus. Vous avez peut-être entendu cette théorie, il n'y a pas de juste milieu. Si vous mourrez ce soir, soit vous êtes sauvé, soit vous êtes une âme perdue à jamais. Cet enseignement a causé d'innombrables souffrances et des chagrins inutiles. Pause 02. Nombreux sont ceux qui pleurent la disparition d'êtres chers qui n'ont jamais professé leur foi chrétienne. Peut-être ont-ils mené une vie dissolue. Peut-être ont-ils mené une vie vertueuse selon les critères du monde, sans pour autant se convertir au christianisme. D'autres encore sont plongés dans le doute, ne sachant si la personne disparue était sauvée. Supposons que cette hypothèse universelle concernant ces deux classes soit vraie. Voyez où cela nous mène. Ces enseignements reposent sur la supposition, généralement acceptée sans discussion, qu'il n'existe qu'un seul âge. Un seul temps où Dieu s'efforce désespérément de sauver le monde. Que la mission de l'Église est de sauver le monde, et que ce jour est le seul jour du salut qui touche à sa fin. Telle est la position de la plupart des protestants. Elle a longtemps été la position officielle de l'Église catholique romaine. Cependant, ce n'est pas la position de ce que nous appelons l'Église orthodoxe, et ce n'est certainement pas celle que nous, l'Église de Dieu continuante, défendons. Pause 01. Ce n'est pas le seul jour du salut, et c'est un fait incontestable selon la Bible. Vous vous demandez peut-être, la Bible n'enseigne-t-elle pas que c'est le seul jour du salut? Non. Deux versets sont souvent cités à ce sujet. Or, traduit littéralement, ces deux versets n'enseignent pas cela. Ils parlent des « un jour » et non du « jour » du salut. Par exemple, je vais lire Isaïe 49, 8 dans la Bible interlinéaire translittérée. « Ainsi parle le Seigneur, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. » Pause 01. Je vais maintenant aborder le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 6:2, en utilisant une traduction récente appelée la version standard littérale. On y lit, car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Voici, maintenant est un temps favorable, voici, maintenant est un jour de salut. Pause 01. En grec, langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, l'article défini « le » est très fréquent, plus qu'en français. Il n'apparaît pas dans le passage de 2 Corinthiens 6:2. Je l'ai lu et vérifié, il n'y figure tout simplement pas « maintenant » est un moment acceptable. « Maintenant » peut désigner le jour du salut pour ceux qui sont appelés. En fin de compte, Dieu offrira le salut à chaque personne n'ayant jamais vécu. Son plan prévoit notamment la première résurrection, destinée à ceux qui sont appelés, élus et fidèles en cette ère. Tous ceux qui ne sont pas appelés maintenant se verront offrir une véritable opportunité de salut. Cela concerne les milliards d'êtres humains ayant vécu et péri depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Ils ressusciteront lors de la seconde résurrection. Les autres morts, comme le dit l'Apocalypse 20:5, ressusciteront sous forme humaine et seront jugés. Ils auront alors leur unique et véritable chance de salut. Cette résurrection se déroulera 1000 ans après la première, après ce que l'on appelle généralement le millénium. Durant le millénium, Dieu appellera tous les vivants. Pause 02. Je voudrais maintenant revenir sur le livre d'Isaïe, chapitre 29. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce passage. En Isaïe 29, 14, Dieu dit « Je ferai encore une œuvre merveilleuse au milieu de ce peuple ». Verset 24. Ceux qui sont dans l'égarement par l'esprit parviendront à la sagesse, et ceux qui murmurent apprendront la doctrine. Or, le peuple auquel Isaïe s'adressait est mort depuis des milliers d'années. La prophétie ne s'est pas encore accomplie. Ceux qui étaient dans l'égarement par l'esprit parviendront à la sagesse. Quand cela se produira-t-il? Pas dans ce monde. Ce sera dans le monde à venir, après le millénium, lors de la seconde résurrection. Pause 02. La plupart des chrétiens de nom ignorent cette vérité fondamentale, principalement à cause de traditions non bibliques souvent présentées comme doctrine chrétienne. Vous pourriez penser, oui, mais un protestant croit au sola scriptura. Vraiment? J'ai connu beaucoup de protestants qui m'ont dit croire au sola scriptura, mais je n'en ai jamais rencontré un seul qui y croit réellement. Comment puis-je affirmer cela? Le premier homme, considéré par certains érudits comme un protestant, ne croyait pas en la Bible. Il en a rejeté une grande partie. Si l'on étudie l'histoire du protestantisme, on constate que les protestants ont en réalité adopté de nombreuses traditions catholiques, dont le protestantisme est issu. Même des groupes comme les baptistes, qui affirment ne pas être issus du catholicisme et être antérieurs à la Réforme, ont adopté des doctrines similaires. Quant aux orthodoxes et aux catholiques, ils ne partagent pas non plus la foi originelle. Cependant, en matière de salut, certains orthodoxes ont une conception plus proche de la nôtre au sein de l'Église de Dieu continuante, plus proche encore que celle de la plupart des protestants et des catholiques. Pause 02. Dans Apocalypse 12:9, la Bible enseigne que Satan trompe le monde entier. C'est un menteur. Comme le dit Jean 8:44, il est le père du mensonge. J'aimerais maintenant aborder Jérémie 16. Vous serez sans doute heureux d'apprendre que Dieu affirme avoir un plan pour ceux qui sont égarés par les traditions humaines influencées par Satan en ce temps-ci. Dans Jérémie 16, à partir du verset 19, le prophète Jérémie écrit « Ô Éternel, ma force, ma forteresse, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre et diront « Nos pères n'ont hérité que du mensonge, de la perversité et de ce qui ne sert à rien. » Cela fait référence aux traditions. Vos pères ont hérité de mensonges. La plupart des personnes qui se disent chrétiennes aujourd'hui ont accepté des traditions et ont hérité de mensonges. Verset 20. L'homme se fabriquera-t-il des dieux qui ne sont pas des dieux? C'est pourquoi, voici, je vais leur faire connaître cette fois-ci. Je leur ferai connaître ma main et ma puissance, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Alors, les païens vont venir. À l'époque où Jérémie écrivait ces lignes, les païens étaient déjà morts depuis des millénaires. Y avez-vous déjà réfléchi? Beaucoup pensent qu'avant l'arrivée des missionnaires, les peuples d'Inde, des îles ou d'Afrique, par exemple, ne connaissaient pas Jésus. Ils croient qu'ils brûleront éternellement. Non. Ils viendront des extrémités de la terre et diront « Nous avons hérité du mensonge ». Dieu a aussi un plan pour eux. On n'attendait pas de tous qu'ils connaissent la vérité à cette époque. Beaucoup ont hérité du mensonge, et Isaïe et Jérémie en ont parlé. Pause 01. Nous n'avons pas à nous affliger pour ceux qui n'ont probablement pas été appelés à notre époque. Ils auront l'occasion de comprendre lors du jugement du grand trône blanc. Nous lisons à ce sujet dans l'Apocalypse 20. Nous croyons que ce jugement durera 100 ans, d'après Isaïe 65, 20. Ainsi, ceux qui ne sont pas appelés à notre époque auront une chance. Mais qu'en est-il de ceux qui sont appelés en ce siècle? Ouvrons le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 4. Nous y voyons qu'il y avait des trônes, et que le jugement leur avait été donné. Ce sont les âmes de ceux qui ont été décapités à cause de leur témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Ils n'ont pas adoré la bête ni son image. Ils ont vécu et régné avec Jésus pendant 1000 ans, mais les autres morts ne sont pas revenus à la vie avant que les 1000 ans ne soient accomplis. Il y a donc deux groupes. Ceux qui sont appelés et prédestinés en ce siècle, et qui l'ont accepté, ressusciteront. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à cette première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront pendant 1000 ans. Quelle espérance glorieuse! Mais remarquez le verset 5. Les autres morts ne reviendront pas à la vie avant que les 1000 ans ne soient accomplis. Ils ressusciteront donc eux aussi et auront leur chance. Pause 02. Il y a donc deux catégories, ceux qui sont appelés et ceux qui ne le sont pas encore. Dieu est juste. On lit dans 1 Timothée 2 que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il ne refusera à personne la possibilité du salut. La plupart ne sont tout simplement pas appelés en ce temps-ci. Jésus a-t-il dit que le but de la prédication était de convertir tout le monde? Non. Voyons Matthieu 24:14. Jésus a dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et la fin viendra. La fin viendra lorsque la septième trompette sonnera. Mais cette prédication sert de témoignage aux nations, afin qu'elles soient plus enclines à répondre à l'appel lorsqu'elles en auront l'occasion. » Pause 02. Il y a un autre type de prédestination dont je voudrais parler quelques instants. Il s'agit de celle développée par Jean Calvin, l'un des premiers réformateurs protestants. C'est une doctrine assez célèbre. Elle a donné naissance à ce qu'on appelle le calvinisme tully en 5 points. Le T signifie « dépravation totale ». Tous les hommes sont tombés en Adam, les laissant morts dans le péché et incapables de répondre positivement à Dieu. Or, la Bible enseigne, dans l'Ecclésiaste 7:29, que Dieu a créé les hommes droits, mais qu'ils ont eu recours à de nombreuses ruses. L'enseignement de la dépravation totale est donc incohérent. Il est vrai que la Bible dit qu'en Adam tous les hommes meurent. Elle enseigne aussi qu'en Christ tous les hommes sont rendus vivants, dans 1 Corinthiens 15:22. Tous auront la possibilité d'être sauvés, et non seulement quelques-uns. Abraham dit à Dieu, dans la Genèse 18:25, « Le juge de toute la terre n'agira-t-il pas avec justice ?» Oui. En donnant à chacun la possibilité d'être sauvé, Dieu agit avec justice. Bien que Dieu doive appeler et que les humains puissent répondre. Le deuxième point du tully, la lettre U, représente l'élection inconditionnelle. De toute éternité, Dieu a choisi certains hommes pour être sauvés par sa grâce, sans tenir compte d'aucun mérite qu'ils auraient pu prévoir. Dieu a prédestiné le salut de ses élus. C'est un don de sa grâce. Mais la foi personnelle est également nécessaire, car Dieu ne veut la perte de personne. Jésus l'a clairement indiqué dans Matthieu 22, « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Cela signifie que le salut, à notre époque, est soumis à certaines conditions. Puisque Dieu est omniscient et juste, il est logique que les élus soient choisis par lui. Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que nous, même s'il existe probablement plusieurs raisons qui expliquent notre différence. Vous pouvez lire à ce sujet dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Le troisième point de tully, la lettre L, représente l'expiation limitée. Dieu aurait envoyé son Fils pour expier pleinement et efficacement les péchés uniquement des élus, ceux qu'il a prédestinés au salut. C'est un blasphème absolu, une contradiction flagrante avec les Écritures. Il est dit en 1 Timothée 2:4 que Dieu a envoyé son Fils afin que tous soient sauvés. Voyons maintenant Jean 3. 16-17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Cela ne concerne pas seulement les élus, ni seulement les prédestinés. Pause 02. Je vais maintenant me référer à 1 Jean 4 pour étayer davantage ce propos. À partir du verset 8, Dieu est amour. Et voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Verset 16. Dieu est amour. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui enseigne que l'expiation devait se limiter aux élus ou à ceux qui sont appelés maintenant. Et pour contredire précisément cette partie de tully, 1 Jean 2:2 dit « Il est la propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Il devrait donc être absolument clair que Jésus n'est pas mort seulement pour les élus. C'était pour le monde entier. Cela devrait être très, très clair. Pause 02. Dans Luc 19h10, Jésus dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est venu sauver les perdus, et non seulement une poignée d'élus. Dans Jean 12h47, Jésus dit « Si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge pas. Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » L'idée que Jésus soit venu sauver seulement quelques élus est donc fausse, car il est venu porter les péchés de tous. Hébreux 9h28 affirme que le salut sera offert à tous ceux qui ont jamais vécu. Le quatrième point du modèle Tully, le I, est la grâce irrésistible. Ceux que Dieu a élus au salut, et pour qui le Christ est mort, il les appelle en réalité à la régénération, les arrachant à la mort spirituelle. Ils deviennent ainsi capables d'exprimer leur foi. Or, il est vrai, d'après la Bible, que seuls ceux que Dieu appelle peuvent être sauvés, mais il est possible de s'en détourner. Selon 2 Pierre 2h21, les calvinistes n'acceptent pas que la grâce soit sujette à résistance. Ils ne comprennent pas que, si les élus prédestinés doivent être appelés dès maintenant, tous ceux qui ne sont pas appelés dans cette vie auront l'occasion d'être sauvés dans le monde à venir. Je voudrais maintenant aborder Romains 10h20, car l'apôtre Paul a écrit à ce sujet. Citant Isaïe, il affirme avec assurance « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, j'ai été manifesté à ceux qui ne me demandaient rien. » Si les calvinistes pourraient être tentés d'y voir une élection inconditionnelle, cela signifie en réalité que ceux qui ne cherchent pas Dieu en ce siècle pourront le trouver dans le siècle à venir. L'un des nombreux problèmes du calvinisme est justement qu'il ignore l'existence de ce siècle à venir. Je vais maintenant aborder Jacques 1h18. Les chrétiens sont comme les prémices. Jacques 1h18 dit « Il nous a engendrés de sa propre volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons comme les prémices de ses créatures. » Et dans Romains 8h23, Paul écrit « Non seulement cela, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. » Réfléchissez-y. L'idée des prémices de l'Esprit ne suggère-t-elle pas une moisson ultérieure? Le jour de la Pentecôte est aussi appelé la fête des prémices dans Exode 34, 22. Aujourd'hui encore, cela symbolise que Dieu n'appelle que certains pour le moment. Pause 01. Je veux lire 1 Timothée 2, à partir du verset 3, et je veux que vous m'accompagniez. Pause 03. Verset 3. Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, ce qui devait être attesté en son temps. Il y a un temps, et dans Éphésiens 1h10, l'apôtre Paul y fait référence, afin que, lorsque les temps seraient accomplis, il réunirait toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Remarquez, il rassemblera toutes choses lors de la dispensation de la plénitude des temps. La doctrine Tully n'en tient pas compte. Le cinquième point de Tully, le P, est la persévérance des saints. Ceux que Dieu a élus en Christ, appelés par la régénération et justifiés par la foi, il les garde constamment afin qu'ils ne s'éloignent jamais de sa grâce et entrent toujours dans la gloire éternelle. Ceci contredit également l'Écriture. L'idée même du péché impardonnable est le blasphème contre le Saint-Esprit. On peut le lire dans Matthieu 12, 31-32. Cela concerne ceux qui reçoivent le Saint-Esprit de Dieu et s'en détournent. Jésus a dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. » C'est une des allusions de Jésus au monde à venir. Remarquez que même ceux qui s'opposent à Jésus pourront être pardonnés dans le monde à venir. Comment est-ce possible, puisqu'ils ne l'ont même pas connu? Parce qu'ils auront une nouvelle chance dans le monde à venir. Pause 02. Hébreux 6 contredit le « P » de Tully. À partir du verset 4, Paul écrit « Car il est impossible, pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, de les ramener à la repentance, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'opprobre. Ainsi, le salut peut être perdu. Nous possédons le libre arbitre. Pierre n'aurait eu aucune raison d'encourager les fidèles à consolider leur vocation et leur élection, comme il l'écrit dans 2 Pierre 1h10, s'ils ne pouvaient pas trébucher et les perdre. Et dans 2 Corinthiens 13:5, l'apôtre Paul écrit « Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins que vous ne soyez réprouvés. » Le fait que l'on puisse être réprouvé prouve que le salut n'est pas garanti en toutes circonstances. Pause 01. Passons maintenant à Luc 14. Jésus a clairement indiqué que beaucoup ne répondraient pas à son message et que certains n'y survivraient pas, pour diverses raisons. Luc 14, à partir du verset 16, alors il lui dit « Un homme donna un grand souper et invita beaucoup de monde. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, car tout est prêt. » Mais tous, d'un commun accord, se mirent à s'excuser. Verset 24. Car je vous le dis, aucun de ceux qui étaient invités ne goûtera à mon souper. Passons maintenant à Marc 4, verset 14. Jésus raconta la parabole du semeur, mais ses disciples ne la comprirent pas. Il la leur expliqua donc. Verset 14. Le semeur sème la parole. Ceux qui sont semés au bord du chemin reçoivent la parole. Dès qu'ils l'entendent, Satan vient et enlève la parole semée dans leur cœur. Ceux-là sont de même de ceux qui sont semés sur un sol pierreux. Lorsqu'ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes et ne durent qu'un temps. Ensuite, dès que surviennent les tribulations ou les persécutions à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Ceux-là sont de ceux qui sont semés parmi les épines. Ils entendent la parole, mais les soucis de ce monde, la séduction des richesses et la convoitise des autres choses étouffent la parole, et elle ne porte pas de fruits. Pause 01. De plus, Jésus a répété à maintes reprises que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je ne vais pas citer tous les passages de Matthieu et de Marc, mais cela signifie que si vous ne persévérez pas, vous ne serez pas sauvé. Je devrais probablement préciser que la doctrine Tully signifie en substance qu'environ 2% de l'humanité sera sauvée. Les 98% restants seront tourmentés pour l'éternité. Je considère cette doctrine comme quelque peu raciste, car la plupart de ces 2% sont caucasiens, si l'on en croit les adeptes d'une forme ou d'une autre de calvinisme. Quoi qu'il en soit, elle est manifestement contraire à la Bible et constitue une interprétation erronée de la prédestination. Pause 03. Aujourd'hui, les chrétiens eux-mêmes doivent vivre comme Jésus. L'apôtre Jean, dans sa première épître, 2:6, écrit que celui qui prétend demeurer en lui doit marcher comme il a marché. Or, bien que Jésus soit venu pour être roi, il n'a pas vécu comme un roi. Son royaume n'était pas de ce monde. Qu'en est-il de ceux qui sont prédestinés à cette époque? Eh bien, nous sommes appelés à être rois et prêtres et à régner avec lui. Apocalypse 5:10. Nous ne le voyons pas encore, mais je vous invite à lire l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 6. Pause 03. Mais quelqu'un témoigna en un certain lieu, disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as placé sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Car, en soumettant toutes choses à son autorité, il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Or, nous ne voyons pas encore toutes choses lui être soumises. Mais nous voyons Jésus, qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il goûtât la mort pour tous. Car il convenait que celui pour qui et par qui sont toutes choses, en amenant à la gloire un grand nombre de fils, rende parfait par les souffrances le chef de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul homme. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, disant « J'annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée je te louerai. » Et encore, « Je mettrai ma confiance en lui. » Et encore, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Pause 01. Bien que Jean 3:16 soit considéré comme le verset le plus consulté de la Bible, le deuxième serait Jérémie 29. Beaucoup de protestants ne comprennent pas Jérémie 29. À partir du verset 11, il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez, vous irez me prier, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je vous ramènerai de votre captivité. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai au lieu d'où je vous ai emmenés captifs. Or, Beaucoup de prédicateurs n'abordent pas ce point. Ils se contentent de lire « Mes pensées à votre égard sont des pensées de paix et non de mal ». Mais si l'on lit la suite, on découvre que le plan impliquait l'exil, la vie d'étranger, l'espérance d'un séjour en terre étrangère. Ce plan reste d'actualité pour les chrétiens d'aujourd'hui. Cela signifie-t-il pour autant que nous pouvons rester les bras croisés, ne rien faire et attendre passivement? Non. Dieu ne nous a pas appelés à vivre en ermite. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, Jésus raconte la parabole des talents. L'homme à qui Jésus avait donné un talent lui dit « Seigneur, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne là où il n'a pas semé. » Pris de peur, il cacha son talent dans la terre et le rendit. Le maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Il te fallait placer mon argent chez les banquiers, afin qu'à mon retour je recouvre mon héritage avec les intérêts. Enlève-lui donc le talent et donne-le à celui qui en a 10. » Nous ne sommes pas censés vivre en ermite, isolés du monde, sans rien faire. Pause 01. Jacques, le demi-frère de Jésus, dit dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Il dit aussi que la religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Les chrétiens sont appelés à faire le bien et à soutenir l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à vivre comme des ambassadeurs du Christ et de l'Évangile du Royaume de Dieu. Nous sommes appelés à vivre différemment du monde. On peut le lire dans 1 Jean 2, à partir du verset 15. Jean écrit « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si vous avez été appelé, si vous étiez prédestiné à cet appel, c'est ce que vous devez faire. » Pause 01. Dans une Pierre 2h09, nous lisons au sujet des vrais chrétiens. « Mais vous êtes une race élue, appelée, choisie pour être un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous accomplissez cela en vivant selon les préceptes de Dieu et en soutenant son œuvre, notamment en prêchant l'évangile du royaume de Dieu et en témoignant au monde. » Verset 10. « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. » En tant qu'ambassadeurs, les chrétiens sont appelés à être des exemples et des témoins de Dieu. Les ambassadeurs, d'ailleurs, ne se contentent pas de se cacher et de veiller à leurs propres intérêts. Ils soutiennent l'œuvre de leur gouvernement, ou dans notre cas, le gouvernement à venir du royaume de Dieu. Pause 01. Je vais maintenant lire un autre passage de Jérémie. Jérémie 29, 28. Vous n'êtes pas obligés d'aller jusqu'ici. Il est dit qu'il envoya un message aux habitants de Babylone, disant « Cette captivité est longue. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. » Remarquez que ceux qui étaient en exil dans l'ancien Israël ont reçu l'ordre de bâtir et de porter du fruit. Planter demande de la foi. Traduire des textes en plusieurs langues, notamment pour de nombreuses personnes qui n'ont pas encore de soutien qui comprennent l'œuvre, demande également de la foi. Cela fait partie de l'œuvre que nous, dans l'Église de Dieu continuante, accomplissons. Tout comme les exilés, nous sommes appelés à porter du fruit. Pause 01. Les enfants de Dieu doivent se préparer à s'unir au Christ lors de son retour. L'Église est actuellement jugée par Dieu, en préparation de sa naissance au sein de sa famille lors du retour du Christ. Éphésiens 4:1 nous exhorte à marcher d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Comment y parvenir? Pierre dit, dans une Pierre 1:15, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints vous aussi dans toute votre conduite. » Pierre, tout comme Paul, affirme que nous sommes appelés à vivre en chrétien, à l'exemple de Jésus. Une Pierre 2h21 déclare « Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que nous suivions ses traces. Il n'a commis aucun péché, et il ne s'est trouvé dans sa bouche aucun mensonge. » Si vous êtes appelés aujourd'hui, vous devez vivre comme Jésus. Pause 03. Aujourd'hui, tout le monde n'entendra pas suffisamment la vérité pour réagir. Ce n'est peut-être pas encore votre moment. Je vous invite à lire l'Épître aux Romains, chapitre 10, versets 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Pause 01. Ceux qui n'entendent ni ne voient la vérité ne sont pas appelés en ce temps-ci. Bien sûr, des prédicateurs sont envoyés grâce à votre soutien, vos prières, votre aide financière et votre engagement bénévole. D'autres voient et entendent la vérité. Ils sont appelés maintenant. Les gens sont en cours de purification. Ceux qui ne sont pas appelés en ce temps-ci sont purifiés d'une certaine manière, selon la Bible, tandis que ceux qui sont appelés en ce temps sont purifiés et affinés d'une autre manière, selon les Écritures. Vous avez le choix. Dieu a dit à Israël, Deutéronome 30, 19, « J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie, afin que vous viviez, vous et votre descendance, en aimant l'Éternel, votre Dieu, et en obéissant à sa voix. » Je vais lire Hébreux 5:9. Ceux qui choisissent la voie de Dieu et persévèrent jusqu'à la fin recevront la vie éternelle. Hébreux 5:9 dit « Jésus est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. » Nous sommes appelés à obéir. Pause 01. Quels sont les signes qui pourraient indiquer que Dieu ne vous appelle pas en ce moment? Eh bien, si vous pensez ne pas avoir besoin de vous repentir et de changer, c'est que vous n'entendez pas vraiment l'appel de Dieu. Pause 01. Peut-être avez-vous choisi de ne pas vous présenter aux élections. Pause 01. Si vous ne pouvez pas accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous n'entendez pas vraiment l'appel de Dieu. Pause 01. Si vous croyez que l'humanité peut résoudre ses problèmes sans Dieu et sans la parole de Dieu, vous n'entendez pas l'appel de Dieu. Pause 01. Si vous pensez que la tradition humaine est plus importante que la parole de Dieu pour votre façon de vivre, vous n'entendez pas l'appel de Dieu. Pause 01. Si vous acceptez des interprétations des Écritures qui ne correspondent pas à ce que dit réellement la Bible, par tradition ou parce que la majorité des personnes à qui vous parlez le disent, vous ne répondez pas à l'appel de Dieu. Pause 01. Si vous évaluez le coût et concluez qu'il est trop élevé, sachez que beaucoup de gens ont du mal à respecter le sabbat, les jours saints, à éviter les viandes impures, à gérer les conflits familiaux, à ne pas célébrer les fêtes païennes, à donner la dîme et les offrandes, et à collecter la seconde dîme pour les fêtes. Ils estiment alors que ce coût est excessif. Pause 01. Rien de tout cela ne prouve que Dieu ne vous appelle pas, car vous avez peut-être résisté. Moïse aussi. Saul, devenu Paul, également. Même le roi Saul a d'abord résisté. Quoi qu'il en soit, Dieu vous appelle peut-être, mais vous n'êtes peut-être pas disposé à répondre. Un véritable appel viendra peut-être plus tard. Mais si c'est maintenant, et si vous écoutez ceci, c'est probablement le cas. Sachez que Dieu nous tient individuellement responsables de l'usage que nous faisons de nos connaissances. Pause 02. Dans Romains 6:16, la nouvelle traduction vivante dit « Ne savez-vous pas que vous devenez esclave de ce à quoi vous choisissez d'obéir? Vous pouvez être esclave du péché, ce qui mène à la mort, où vous pouvez choisir d'obéir à Dieu, ce qui mène à une vie juste. Vous devez décider de votre voie. Vous pouvez mener une vie de rébellion vaine contre Dieu. » Jacques écrit, dans Jacques 4:17, « Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Mais Jésus a enseigné, dans Jean 8, 31-32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Si vous connaissez la vérité, vous devez la mettre en pratique. Certaines personnes ne font pas partie de notre Église car nous n'avons pas de communauté près de chez elles. Nos membres sont dispersés en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, en Asie du Sud et ailleurs. Nous n'avons pas beaucoup de communautés pour les accueillir. Nous avons des sympathisants et des communautés physiques partout dans le monde. Si vous n'en avez pas à proximité, vous pouvez consulter le site ccog.org pour trouver nos communautés. Nous proposons également des services en ligne en anglais depuis l'Amérique du Nord, le Pacifique Sud et l'Europe, permettant aux chrétiens dispersés de se réunir chaque sabbat. À terme, nous espérons établir davantage de communautés physiques dans plus d'endroits. Certains pensent que s'ils n'ont pas de communauté à proximité, Dieu ne peut pas les appeler. Or, peut-être Dieu ne vous appelle-t-il pas à être un chrétien de Philadelphie. Peut-être n'êtes-vous pas prêt à assumer pleinement cette identité. D'ailleurs, Jésus a dit que les Philadelphiens seraient des piliers. Ma femme Joyce et moi avons visité de nombreux sites antiques et vu beaucoup de piliers encore debout. Les piliers doivent être capables de se tenir debout par eux-mêmes. Jésus a dit, « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » N'abandonnez pas simplement parce qu'il n'y a personne géographiquement proche de chez vous, ou pas assez proche. Nos sermons sont disponibles sur bnpi.net en 40 langues. De nouveaux sermons sont ajoutés chaque mois. Écoutez-les pour en savoir plus sur l'Église de Dieu continuante. Pause 01. Dans le psaume 37, à partir du verset 4, la Bible enseigne « Fais du Seigneur tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort entre ses mains, et confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le plein midi. Repose-toi sur le Seigneur, et attends-le avec patience. » Parfois, les chrétiens doivent attendre et faire confiance à Dieu pour qu'il établisse des communautés près de chez eux, et cela peut prendre plus de temps qu'on ne le pense. Et bien sûr, au sein de l'Église de Dieu continuante, nous devrions nous réunir le jour du sabbat lorsque nous le pouvons, et lors d'événements comme la fête des tabernacles, que nous célébrons généralement dans plusieurs endroits du monde. C'est un moment où Dieu nous invite à voyager, et cela nous offre une occasion de communion fraternelle. Autrefois, à la Radio Church of God, les gens devaient attendre longtemps pour entendre des sermons ou même recevoir une visite. Vous avez donc aujourd'hui plus d'opportunités qu'au début de l'ère de Philadelphie au sein de l'Église de Dieu. En tant que pilier, vous pouvez être un ambassadeur du christianisme philadelphien, mais tous ne persévéreront pas. Espérons que vous, si, avec l'aide de Dieu, vous le pouvez. Car il est dit dans 1 Corinthiens 10h13 que Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et Philippiens 4h13 dit « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Vous aussi, vous le pouvez. J'ai mentionné l'épître aux Philippiens. Dieu a un plan pour vous si vous lui faites vraiment confiance. Philippiens 1h6 dit « J'ai cette conviction profonde, celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » N'oubliez pas, dans Romains 8h28, il est dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Pause 02. Or, Éphésiens 1, que j'ai cité précédemment, dit que Dieu nous a choisis avant la création du monde. Nous a-t-il prédestinés à quoi? À la perdition? Non. À être adoptés comme ses enfants par Jésus-Christ. Prédestiné selon le dessein de celui qui accomplit toutes choses selon sa volonté. Beaucoup étaient-ils donc prédestinés à demeurer perdus? Non. La prédestination n'a rien à voir avec le salut ou la perdition. C'est le choix de chacun. La prédestination concerne l'opportunité que Dieu nous offre en ce temps de faire confiance au Christ et de participer à la moisson des premiers jours. Elle n'a rien à voir avec notre destin. Elle concerne uniquement le moment de notre vocation, que nous soyons appelés à notre époque ou plus tard. Pause 01. Romains 8 dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. » Et le verset 30 de Romains 8 dit « De plus, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » La prédestination concerne l'appel, et non le salut ou la perdition. Tous auront la possibilité d'être sauvés. Dieu ne décide pas à l'avance pour vous si vous êtes sauvés ou perdus. Il a décidé d'avance qu'il appellerait en ce temps-ci, qui pourrait être roi et prêtre dans son royaume, et participer à son œuvre, témoigner auprès des autres et contribuer au salut après leur résurrection. Pause 01. Les chrétiens régneront sur les nations, comme nous le lisons dans l'Apocalypse 2, à partir du verset 26. À celui qui vaincra et qui persévérera jusqu'à la fin dans mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer. Elles seront brisées comme des vases d'argile. Comme moi aussi j'ai reçu autorité de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Nous sommes appelés à agir. Il ne s'agit pas seulement d'accepter que Jésus est Seigneur, mais de vivre selon sa volonté et de soutenir son œuvre. Nous régnerons pendant 1000 ans. Ceux qui sont appelés durant cette période sont appelés à une vie de formation, à un développement spirituel, en vue d'occuper des postes de haute responsabilité dans le royaume à venir. Ouvrons l'Évangile selon Luc, Chapitre 19, verset 11. Il leur raconta cette parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'il pensait que le royaume de Dieu allait bientôt apparaître. Un homme de grande valeur partit pour un pays lointain afin d'y recevoir un royaume et de revenir. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines chacun et leur dit « Faites fructifier ses biens jusqu'à mon retour. » Ses concitoyens le haïssaient et ne voulaient pas qu'il règne sur eux. À son retour, après avoir reçu le royaume, il voulut savoir combien chacun de ses serviteurs avait gagné. Le premier répondit « Maître, ta mine vaut 10 mines. » Jésus lui dit « C'est bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second s'approcha et dit « Maître, ta mine vaut 5 mines. » Jésus lui dit de même « Sois intendant de 5 villes. » Il y avait ensuite celui qui n'avait rien fait. Le Seigneur dit « Enlevez-lui la mine et donnez-la à celui qui en a 10. » Ils répondirent « Il en a déjà 10. » Il dit « À celui qui a, il sera donné davantage, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Pause 02. Ceux qui triomphent et progressent 5 fois plus en grâce et en connaissance seront dignes de recevoir 5 villes. Ceux qui pensent avoir été sauvés par la seule acceptation du Christ et qui se sont laissés tromper en croyant que les œuvres sont inutiles, n'ont ni grandi ni évolué, contrairement à celui de la parabole, et risquent de tout perdre. Pause 01. La religion de Dieu n'est pas une religion de « secours », mais une formidable opportunité qui durera pour l'éternité pour ceux qui exercent leur foi en s'efforçant toujours de vivre selon la volonté de Dieu. Passons à Hébreux 2h1. C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne nous en éloignions. Car si la parole annoncée par les anges a été ferme, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut? Ainsi, vous pourriez vous en éloigner. Pause 02. L'appel a été lancé. C'est un appel merveilleux. Vous l'avez entendu. À vous de jouer. Pause 02. Ouvrons l'Épître aux Romains, chapitre 10. Si, après mûre réflexion, vous sentez que Dieu vous appelle, que devez-vous faire? Romains 10, à partir du verset 8. Que dit-il? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Verset 11. Car l'Écriture dit, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il n'y a point de distinction entre juifs et grecs, car le même Seigneur est le Seigneur de tous, riche en grâce envers tous ceux qui l'invoquent. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus était, et est, le Sauveur prophétisé. Pause 01. Ceux que Dieu appelle ont la possibilité de se repentir et d'accepter le sacrifice de Jésus. Ensuite, après avoir été baptisés et avoir reçu l'imposition des mains, ils reçoivent le Saint-Esprit. Si Dieu vous appelle, vous devez donc vous repentir et l'accepter pleinement comme Seigneur et Sauveur. Lisons Actes 2, verset 38. L'apôtre Pierre a enseigné, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Par ailleurs, vous pouvez également bénéficier d'un accompagnement spirituel auprès de l'Église de Dieu continuante. Nous avons des pasteurs, des diacres et des responsables dans le monde entier qui peuvent vous aider. Rendez-vous sur ccog.org et cliquez sur la section « Accompagnement spirituel ». Cet accompagnement vous aidera à « évaluer le coût », comme Jésus l'a demandé à ses disciples. Cela dit, il est aussi passionnant d'approfondir sa connaissance de la vérité tout au long de son cheminement vers le royaume de Dieu. C'est là une des richesses les plus précieuses. Dans un article de Plaintrousse intitulé « La véritable signification de la prédestination », j'aimerais lire un texte écrit par Feu Herbert W. Armstrong. Il est un peu long, mais je souhaite tout de même le lire. Pause 01. Jésus-Christ a dit clairement « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Jean 6h44. Le chapitre 11 de l'Épître aux Romains explique que seuls quelques-uns sont appelés à la repentance, à la foi en Christ et au salut spirituel avec la vie éternelle dès maintenant. Puisque nul ne peut venir à Christ, se convertir spirituellement, si le Père ne l'attire, le terme « appelé » désigne ceux qui sont ainsi attirés par le Père. Il apparaît clairement que les prédestinés sont ces quelques-uns prédestinés à être appelés maintenant, les premiers à être appelés, à être attirés par le Père vers Christ et vers l'héritage d'enfants engendrés et nés de Dieu. D'autres seront appelés plus tard. La prédestination se réfère à ceux qui sont appelés d'avance, et non à ceux qui sont préjugés ou précondamnés. Rien dans ce passage, ni dans Romains 8, ne parle de préjugés ou de précondamnation. Par conséquent, la prédestination concerne uniquement le moment où certains sont appelés spécifiquement, et uniquement ceux qui sont appelés en premier, avant le reste du monde, ceux qui sont appelés maintenant et le monde en général, ceux qui ne sont pas encore appelés. Pourquoi Dieu appellerait-il quelques personnes maintenant et tous plus tard? Je pense l'avoir expliqué. Dieu doit permettre à l'homme de prouver que la voie de Satan pour s'enrichir n'est pas bonne pour nous. Il a appelé, choisi et donné son Saint-Esprit aux prophètes. Pourquoi appelle-t-il quelques personnes aujourd'hui et ouvre-t-il leur esprit à la vérité spirituelle, qui semble si folle aux yeux du monde, 1 Corinthiens 2h14, alors que « la sagesse de ce monde est folie devant Dieu », 1 Corinthiens 3h19? Ceux qui sont appelés maintenant le sont pour accomplir une mission. Ils reçoivent le Saint-Esprit pour cela. Dieu m'a confié, ainsi qu'aux responsables de l'Église, sa grande mission de proclamer l'Évangile du Christ et le Royaume de Dieu dans le monde entier. Il a appelé quelques milliers de personnes pour m'aider à accomplir cette mission. Ceux qui sont prédestinés à être appelés maintenant, et non plus tard lorsque le monde entier sera appelé, ont pour mission de m'assister par la prière, par leurs encouragements, et j'en ai besoin, a-t-il écrit, et par leurs dîmes et offrandes. Cette responsabilité est le moyen par lequel Dieu développe en nous son propre caractère juste. Le Christ devait rejeter la voie de Satan et le vaincre pour être digne de rétablir le gouvernement de Dieu et d'établir son royaume. Il en va de même pour nous, qui sommes appelés à régner avec lui. Je l'ai dit à ceux qui sont appelés, à celui qui vaincra Satan et sa voix, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu Satan et sa voix. À celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations, et il les gouvernera. Apocalypse 3h21, 2, 26-27. Quand le Christ viendra, Satan sera vaincu. Quand le Christ entreprendra de sauver le monde spirituellement, il n'y aura plus de Satan à vaincre. Mais ceux qui ne sont pas appelés maintenant n'auront pas eu l'occasion de le vaincre comme nous le devons maintenant, et ils ne seront donc pas qualifiés pour siéger avec le Christ sur son trône, régnant et sauvant pendant le millénium. Pause 02. Voilà le véritable sens de la prédestination, comme l'écrivait Herbert Armstrong dans Plein Trousse en novembre 1976. Pause 03. Je vais résumer. Le Nouveau Testament enseigne dans Éphésiens 2h10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Si vous avez été prédestiné à être appelé, vous avez également été prédestiné à accomplir de bonnes œuvres et à soutenir l'œuvre de Dieu pour atteindre les autres. Vous êtes aussi appelé à apprendre. Il est dit dans Proverbes 25, 2, « La gloire de Dieu est de cacher une chose, mais la gloire des rois est de la découvrir. » Dieu appelle son peuple à être roi et prêtre. Apocalypse 5h10. En tant que futur roi, il est passionnant d'apprendre les vérités que Dieu a cachées au monde, bien qu'elles se trouvent dans sa parole. Je vais maintenant aborder le chapitre 5 des Actes des Apôtres. J'y ai fait allusion précédemment, à partir du verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, afin d'accorder à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, tout comme le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Êtes-vous disposé à obéir à Dieu? Désirez-vous alors recevoir le Saint-Esprit? Nous avons un livre sur le baptême en anglais que vous pouvez consulter. Il est également disponible sur ccog.org. La lecture et la compréhension de ce livret pourraient vous aider à discerner si Dieu vous appelle. Peut-être vous êtes-vous interrogé ou inquiété quant aux implications que l'acceptation de cette connaissance pourrait avoir sur votre vie. Sachez toutefois que Dieu vous tient responsable de ce que vous savez. J'ai déjà cité ce passage, mais le dernier verset que je souhaite citer est Jacques 4h17. Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Dieu a un appel glorieux et a prédestiné certains, à notre époque, à développer leur caractère et à soutenir son œuvre. Ceux qui ont été choisis pour être élus sont appelés à accomplir cette mission. Si Dieu vous a prédestiné à être appelé maintenant, répondez-vous à cet appel comme il se doit? Je prie pour que vous le fassiez. Ici le docteur Bob Thiel, pour l'Église de Dieu continuante.